France Inter.
Non, j'ai pris le métro là, j'ai été obligée de prendre le métro, je me sens pas bien du tout.
On y va.
C'est la grève des taxis.
Ah oui, c'est vrai ça.
C'est horrible le métro.
Oui, c'est
quelque chose. Vous l'avez déjà pris ?
Ouais.
Il y a des gens horribles qu'on voit pas ailleurs.
Vous aurez reconnu peut-être la voix de Camille Cotin dans Connasse. Bonjour Capucine Delattre.
Bonjour.
Vous êtes autrice, vous êtes éditrice et certains vous connaissent sur le réseau social X, Twitter, sous le nom de Charlie Médusa, où vous vous présentez avec humour comme influenceuse RATP. Vous avez donc une passion envahissante pour le métro, ça prend du temps dans votre vie et on se rend compte qu'elle est partagée par beaucoup puisqu'une toute une communauté vous suit activement en ligne. Est-ce que vous pouvez dater la naissance de cette passion contagieuse, on dirait, pour le métro ?
Alors, je pense que j'ai toujours eu une espèce de fascination pour la chose. Déjà petite, ça me travaillait vraiment beaucoup, le train sous la terre, il se passait quelque chose. Mais je pense que là où tout a basculé, c'est quand j'ai eu accès à un ordinateur et j'ai découvert Wikipédia. Donc là, il y a eu des sombres week-ends de mon adolescence qui ont été complètement engloutis par le surf sur Internet pour comprendre
mais
toutes
le
les informations sur le métro particulièrement.
Ah oui. Donc chaque
entre autres, parce que je suis quand même quelqu'un de très, très obsessionnel de base. Et ensuite, je pense qu'il y a vraiment eu un dernier truc, c'était le fait d'avoir un pass Navigo, où là, j'ai vraiment eu le sentiment que Paris m'appartenait. J'étais la reine de la ville.
Ça veut dire qu'on peut vous poser n'importe quelle question sur le métro et vous connaissez, vous savez.
Franchement, il y a des chances.
Chardon Lagache.
Ligne 10.
Je sais pas, j'étais même pas sûre.
Elles ont essayé de me prendre en traite.
Moi-même. Et vous n'avez pas grandi à Paris ?
Banlieue parisienne, après ailleurs, mais je me suis installée à Paris à 16 ans.
En tout cas, cette passion, elle n'est pas que théorique. Par exemple, l'année dernière, en 2023, vous avez passé une journée à arpenter toutes les lignes du métro parisien pour tester toutes les moquettes de sièges. Quels étaient les critères d'appréciation des moquettes sur ces sièges ?
Alors, les critères étaient nombreux, mais ils avaient pour point commun de n'être absolument en aucun cas objectif.
Très bien.
C'était
très bien.
Du pur arbitraire et de l'affect. Voilà.
Je lis un bout de ce périple que vous avez décrit sur X pour rendre compte du lyrisme que vous pouvez y mettre. Ligne 11, certaines personnes de mauvaise foi feront remarquer que cette moquette est identique à celle de la ligne 7, si ce n'est qu'elle est davantage endommagée par le passage du temps. C'est précisément ce qui fait sa beauté, la stabilité et la dignité. Inspirant. C'est aussi l'absurdité de votre quête qui vous anime quand même, soyons honnêtes.
Bien sûr. En fait, comment dire, il se trouve que dans mon cas, c'est tombé sur le métro et c'est souvent un peu compliqué à justifier en soirée quand les gens me disent « Mais pourquoi tu es zinzin au point de t'infliger des bouquins entiers sur l'histoire du métro de Boston ?» Je ne sais pas. Mais en fait, ce que je sais, c'est que je pense qu'on a beaucoup à gagner à s'intéresser à ces choses qu'on reçoit comme des obligations du quotidien, des non-lieux, des non-moments, des non-endroits qui sont pas intéressants a priori, mais en fait quand on commence à poser un regard curieux sur eux, sur ces éléments du paysage, de la ville, de la vie.
Sur l'infraordinaire, pourrait-on dire.
Voilà. Il se passe quelque chose qui rend quand même le quotidien vachement plus drôle.
Et qui rend les gens très heureux, parce que les gens qui vous ont suivi pendant ce périple sur cette journée étaient vraiment très, très à fond derrière.
Moi, je pensais globalement que ça allait intéresser deux personnes. En fait, il y en a eu 35 000. Alors, beaucoup qui m'accusaient de ne rien avoir à faire de mon dimanche.
Ce qui n'était pas forcément tout à fait faux.
Oui. Mais j'ai passé un super dimanche. Hein. Mais beaucoup aussi qui avaient plein de choses à dire et qui s'indignaient de certaines de mes remarques, certains de mes commentaires. Et je trouve que ça dit quelque chose de notre rapport aussi au métro.
Juste en un mot, combien de temps ça vous a pris juste de tout tester dans une même journée?
4h30, mais on n'a pas pu avoir accès à la ligne 9 qui était fermée pour travaux, j'y pense souvent.
Quand même, on va parler un petit peu des sujets qui fâchent, je pense que c'est très important. Je veux bien sûr parler des JO. Est-ce qu'il y a une moquette en particulier qui vaut 4,99€ le trajet?
Alors, j'en suis vraiment pas certaine. Je pense que ce qui vaudrait un petit peu plus d'argent, c'est les lignes dont ont besoin pas mal de franciliens, notamment interbanlieue, mais bon, c'est plus la priorité parce que maintenant, il y a les JO. Voilà.
La plus belle moquette, quand même. C'est celle de la ligne 11, celle qui a vu passer le temps, celle qui est restée digne.
Ah, la plus belle moquette, c'est celle du jour même, c'est celle de l'instant présent, c'est celle où on vit, où on respire, où on ressent. Ouais. C'est
la moquette de la moquette,
jour,
bien sûr.
Exactement.
Bien sûr.
Alexandre Lacroix, il n'aime pas du tout le métro, votre voisin. Comment est-ce que vous pouvez le convaincre de la beauté de cet endroit souterrain? Et vous l'avez dit, c'est pas que le métro parisien, c'est le métro en général, vous,
oui.
qui vous anime.
Oui, oui. Mais je trouve qu'il y a plusieurs choses dans le métro qui sont assez belles quand on y pense. C'est que, pour ma part, j'ai jamais conduit un métro et tout aussi passionnée que je suis pas non plus hyper calée sur la technicité de la chose, mais je fais confiance au métro pour m'emmener à l'endroit dont j'ai besoin. Et au fond, on n'est jamais vraiment sûr, mais pourtant on fait tous confiance, on monte à telle station et on a confiance en le métro pour arriver à telle autre. Pour venir ici, j'ai pris le métro et c'était un trajet que j'avais jamais fait, mais j'avais confiance en le métro pour m'emmener à tel endroit. Et bien sûr, selon l'expérience vécue, on est à peu près certain que le métro va aller à l'endroit où on dit qu'il va aller, mais au fond on n'en sait rien. C'est un peu comme, est-ce que le jour va se lever demain? On pense tous que oui.
C'est le métro de Schrödinger en fait,
mais
à chaque
non,
fois
que
vous montez dans un métro.
Convaincu Alexandre Lacroix.
Il y a quelque chose de très beau dans ça.
Est-ce que vous êtes convaincu Alexandre Lacroix?
Non, mais comme je disais, après mes études, moi je suis parti vivre à la campagne pendant 6 ans, et quand je suis revenu à Paris, j'ai eu du mal à me réacclimater au milieu urbain, et ce qui m'a donné le plus de mal, donc je suis revenu en 2005, et donc l'interview là date de 2008, c'était pas complètement guéri, j'étais pas complètement guéri, ce qui m'a donné le plus de mal, c'est le métro. Alors j'ai triché, je me suis mis à me déplacer en vélo, mais je suis attaché à cette idée qu'on peut trouver de la poésie dans le quotidien. Moi je donne 2 pistes sur le métro, par exemple avec mes enfants, on a le jeu des couleurs de sièges, de deviner quelle sera la couleur des sièges à la station suivante.
Donc. Il y a une carte d'ailleurs qui a été faite récemment qu'on peut trouver sur internet qui répertorie les différentes couleurs de sièges des différentes stations de métro.
Non, et un autre jeu un peu plus sioux, mais ça c'est plutôt aux étudiants. Alors oui, voilà, Capucine, je l'ai eu en atelier d'écriture à Sciences Po.
On ne le savait pas.
Voilà.
On ne le savait pas quand on a prévu cette rencontre. Et c'était assez merveilleux.
Je pensais pas un jour me retrouver sur une radio nationale à convaincre mon ancien prof que le métro c'est super.
Mais quelle vie, quelle vie.
C'est tout ce que j'ai à dire.
Elle était très douée, elle écrivait déjà, et voilà, et j'étais très heureux de recevoir un an plus tard son premier roman. Alors c'était pas dans cette année-là, mais j'ai incité des étudiants dans certaines années à faire des poèmes métro. Vous voyez, je suis pas si irréconciliable. Oui. Et un poème métro, qu'est-ce que c'est? C'est entre 2 stations, vous composez un vers. Si vous êtes très très fort, vous pouvez tenter l'alexandrin, mais sinon vous pouvez pratiquer le vers libre. Et en fait, le titre du poème, c'est la station de départ et la station d'arrivée. Vous voyez, le jour. Et comme ça, vous pouvez composer vos poèmes métro.
Et ça se fait dans les tramways, dans tout ce qui roule et qui a des arrêts, bien sûr. Et ne soyons pas trop RATP centrés, il y a des métros à Marseille, à Rennes, à Lyon. Il y a aussi des trains, il y a des autocars, il y a des... Votre quête de la moquette parfaite pour une assise va-t-elle se diversifier? Allez-vous voir ailleurs, Capucine Delattre?
Absolument. À vrai dire, je suis un peu en plein dedans parce que je suis en train d'écrire un livre entier sur la question du métro et pas que le métro parisien.
Et pas que la moquette.
Et pas que la moquette, je confirme. J'ai un peu élargi mes horizons entre-temps.
Tout ce qui est la barre du milieu, tout ça, c'est vraiment une étude très complète, bien sûr.
Il y a le quai, évidemment. Il y a le portillon. Beaucoup de choses à dire sur le tourniquet.
Le ticket de métro.
Le ticket de métro, voilà. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce côté où toute ligne de métro ou de transport, quel qu'il soit, c'est quelque part une narration de la ville, c'est une histoire. Et puis, ça peut être à l'échelle d'une ville, donc de l'histoire de la ville, comment est-ce qu'elle a étendu son métro de tel endroit à tel autre, mais aussi l'histoire personnelle de nous qui prenons le métro. Je pense que pour beaucoup, pour ceux et celles qui vivent dans une ville où il y a un métro, ils peuvent raconter l'histoire de leur vie à travers certaines stations. Ça, c'est la station où je me suis fait larguer. Ça, c'est la station où j'ai croisé mon ami.
C'est le début de l'auberge espagnole, un petit peu. Voilà. Du film.
Et c'est assez magique à explorer à toutes les échelles.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et au revoir, Capucine Delattre. Pour celles et ceux qui veulent vous lire, vous avez publié en 2023 un livre, comme, vous l'avez prédit, votre ancien professeur Alexandre Lacroix, Un monde plus sale que moi. C'est aux éditions La ville brûle. Et vous ne parlez pas de métro dedans, mais de votre entrée dans la vie amoureuse à l'ère de MeToo. Et puis, vous nous avez confié que vous travaillez sur un futur essai sur le métro, ce sera aux éditions Alary. On a hâte, et c'est comme vous, Alexandre Lacroix, qui est aussi chez Alary. Écoutez.